10h21 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Le Point de Max qui reprend tranquillement ses bonnes habitudes et il y a des invités que vous retrouvez de temps en temps quand les situations le demandent. André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, est en studio. Monsieur Bernier, bonjour.
Bon matin.
Ça recommence ce matin beaucoup dans l'actualité. On parle d'éducation, puis tu sais, c'est drôle parce qu'à la base, j'ai vu un texte dans la presse. Je me suis dit, ah, Monsieur Bernier, pour ça va être parfait. Puis après ça, j'ai vu autre chose dans le journal, dans Radio-Canada. Fait qu'un paquet de sujets éducation. Donc, on est dû pour se mettre à jour. Vous avez passé un bel été?
Oui, merci. Bel été. Il a fait beau, il a fait chaud. Fait qu'on en a profité. Mais on a profité du Québec.
On nous parle ce matin, donc, dans la presse, du manque de personnel professionnel dans nos écoles. Puis quand on parle de personnel professionnel, ben c'est entre autres en orthophonie, en psychoéducation, en psychologie, où le taux, je vais appeler ça d'absentéisme, là, où le taux de les chaises manquantes, appelons ça comme on veut, là, 12,7%, 9%, 11,4%. Fait qu'en gros, c'est à peu près un poste sur 10 en moyenne qui ne serait pas comblé à travers le Québec pour ces postes-là. L'ampleur de cette pénurie-là est à quel niveau en ce moment? Est-ce qu'on se rend compte que ça s'enligne pour être pire que les dernières années ou on est là-dedans depuis un petit bout?
C'est pas pire, c'est pas mieux. Je vous dirais que c'est stable de ce côté-là. J'étais quand même surpris, là, très franchement, de voir un article là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau, là. Au niveau des professionnels, ça fait des années et des années qu'on tire le diable par la queue, excusez l'expression, là, mais pour trouver des gens, puis on n'y arrive pas. Les conditions ont été améliorées quand même pour le personnel professionnel dans les écoles. Je me souviens quand j'ai commencé, là, il y a presque 30 ans là, maintenant comme direction, on avait des postes de psychologue. Je parle pas en région, je parle réellement là, en ville, où on avait une journée par semaine, deux jours par semaine, puis ça, c'était beaucoup. Maintenant, c'est régulier qu'on a du 5 jours par semaine dans une école en psychologie, en orthophonie. Mais reste que les conditions, surtout quand on sort là, des centres urbains, les professionnels sont appelés à faire plusieurs écoles. C'est pas mal moins intéressant que de travailler dans un CIUS, une place, une université, une place que tu bouges pas, voire même en télétravail là, pour certains dans des compagnies. Donc, c'est pas facile de les amener. Là.
Parce que c'est ça, j'allais demander, tu sais, le problème était dû à quoi? J'allais demander, c'est à cause de l'argent, mais de ce que je comprends, c'est pas ça. C'est juste que les conditions qu'on a à offrir sont pas assez intéressantes. Puis c'est sûr que quelqu'un, à la place de se promener dans 4-5 écoles, si on a l'opportunité à côté pour un salaire semblable de soit rester à la maison, soit d'être tout le temps à la même place, c'est sûr que les conditions de travail sont meilleures quand on reste au même endroit?
Bien, il y a ça. Les conditions salariales, ça va dépendre. Si on parle d'un psychologue, admettons qu'il va décider de partir sa pratique, ça peut être beaucoup plus payant, là, on ne se le cachera pas, là. Mais il y a plein de choses qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de fonds de pension. Il y a des choses qui vont d'un plus d'un bord, mais un moins de l'autre côté. Mais quand on est en région, ben 20 km, 25 km entre deux bâtisses, 30 km, ça vient ajouter là, à la charge de travail. Et aussi, ben ça dépend des mandats qui sont donnés. Là. Quand on regarde dans beaucoup d'écoles, c'est plate, mais ce qu'on demande aux psychologues, c'est l'évaluation, l'évaluation, l'évaluation. Alors qu'on n'optimise pas ce qu'ils peuvent faire dans l'école, d'être là en rôle conseil, de travailler avec les équipes écoles pour donner des conseils. Puis c'est la même chose pour les orthophonistes. Si on les cadre juste dans des mandats d'évaluation, ben ils sont pas là pour faire de la rééducation, ils sont pas là pour faire un rôle conseil auprès du personnel. Fait que des fois, il y a mieux être ailleurs pour ne pas faire juste de l'évaluation.
Dans le concret, quand on dit qu'il manque, mettons, un orthophoniste sur 10 ou un psychoéducateur sur 10, un psychologue sur 10 dans nos écoles par rapport aux besoins qu'on aurait, c'est quoi l'impact sur les élèves?
Bien, c'est le service à l'élève qui est touché directement. Ce qui veut dire, on prend des milieux qui sont un petit peu plus éloignés des fois, puis même là, dans la région de Québec, qui n'arrivent pas à se trouver un personnel professionnel, mettons un orthophoniste, comme on disait là. Bien, l'élève qui est en attente d'avoir une évaluation ou un suivi, S'il n'y a pas d'orthophoniste dans l'école, il n'y a pas de suivi. On peut pas, comme direction, on ne peut pas l'inventer. Des fois, on va essayer d'aller chercher au privé, mais les coûts ne sont pas les mêmes du tout là, que versus avoir la personne dans l'école à ce moment-là pour donner le service. Donc, si ça nous coûte le triple, ben, on va donner 3 fois moins de services dans l'année quand on est capable de trouver. Parce qu'on le sait, au privé aussi, là, il y a des listes d'attente pour aller chercher du service, que ce soit psychologue, psycho, éducation ou orthophonie.
Pour ce qui est des enseignants, on en est où? Tu sais, c'est drôle parce que je reviens de l'Abitibi où ma famille est. Puis dans ma famille, j'ai une couple de personnes qui travaillent dans le milieu scolaire, profs, directeurs. Puis là, ça se parlait des séances d'affectation, puis de qui t'es rendu, puis de oh, « il manque-tu pas mal de monde? » Puis là, il manquait des postes. Puis là, pour telle et l'autre école, « ah ben là, ça avait bien été, puis on est complet. » En général, on en manque-tu de profs ou on est revenu pas si mal?
On en manque encore, mais... c'est beaucoup mieux. J'ai fait un petit tour là, ce matin là, avant de m'en venir là, pour voir là, c'était quoi le son de cloche. Là. C'est beaucoup mieux. De ce que j'entends, c'est plus au secondaire que ça accroche qu'au primaire. Dans certains centres de services, ils ont même offert à des profs du primaire de dire « on a des surplus, là. Ça vous tente-tu d'aller faire un petit tour au secondaire pour nous aider? On apprécierait beaucoup. » Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner là, de ce côté-là. Mais c'est mieux. C'est pas parfait. C'est mieux. On va encore avoir des gens là, non légalement qualifiés. Mais il faut garder aussi en tête qu'on a moins de manques parce qu'il y a encore eu des coupures. Là. On a dû couper parce que, oui, les budgets sont demeurés les mêmes, mais la hausse salariale, elle n'a pas été couverte. Fait que vous comprenez qu'ils ont eu un 2,5 %. Fait que c'est 2,5 % de moins en service parce qu'il faut le payer ce bout-là. Là.
Là, est-ce qu'on va se retrouver encore avec des classes qui sont surchargées, puis ça va toujours rester malheureusement?
Bien, les classes surchargées, ça, on est lié à la convention collective. Donc, on ne peut pas le dépasser à moins de circonstances très exceptionnelles. Donc, ça, on demeure. Mais on se retrouve encore avec des écoles surchargées. J'en ai visité une hier, là. Quand on est en train de penser à devoir changer la bibliothèque de place pour être capable d'avoir un bureau pour le personnel parce qu'on n'a plus de place, c'est problématique. Là. C'est qu'on est à pleine capacité.
Autre nouvelle qui a attiré mon attention, puis c'est drôle parce que ça a été un de nos sujets de prédilection pendant des mois quand on se parlait. Je rappelle qu'on était avec André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, qui venait souvent à notre micro, puis qui disait, là, les enveloppes trop précises qui nous forcent, là, c'est assez, il faut avoir plus de flexibilité. Puis à un moment donné, ben, le gouvernement a fini par comprendre le message, puis a donné cette flexibilité-là. Et là, il y a eu des mécontents au début en disant « Ah, mais c'est pas bon pour telle affaire, puis telle affaire. » Puis là, ce matin, Radio-Canada, qui rapporte que 8 anciens ministres et plusieurs acteurs du milieu du livre dénoncent la décision de Québec d'accorder cette plus grande flexibilité-là aux centres de services scolaires dans la gestion de leur budget avec des enveloppes, mettons, un peu plus lourdes, je vais le dire de même, puis déplore que c'est une mesure qui met fin à la protection des fonds qui étaient réservés à l'achat de livres neufs dans les écoles. Avez-vous sursauté un peu en voyant cette sortie-là ce matin?
Ben oui, j'ai été... Ben, est-ce que j'ai été vraiment surpris? Non. De voir que c'est beaucoup d'anciens ministres là, de la culture et une ministre de l'éducation, là. Ça, oui, ça m'a surpris de voir que des gens viennent se mêler de ça alors qu'ils sont plus du tout là, dans le milieu. Ils savent pas comment ça fonctionne. Et je reviens toujours au fait que les budgets dans une école, c'est adopté par le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement, c'est la direction, oui, mais c'est des parents et c'est des enseignants et du personnel de soutien aux professionnels. Donc, tout le personnel et les parents sont représentés. Excusez l'expression, mais on n'est pas tous des tatas. Enfin, on est capable, en équipe, de prendre des décisions qui ont du sens par rapport à ça. Et je reprendrai une parole de Mme Lebel, la ministre, du fait qu'on n'est pas là pour voir à la survie des librairies. Nous, on est là pour répondre aux besoins des élèves. Si dans l'école, le besoin, c'est d'acheter des livres, l'équipe école avec les parents vont dire « Oui, on met de l'argent là, puis on a besoin d'en mettre plus que pour tout le reste. » Si c'est plus d'activités sportives parce que la bibliothèque déborde de matériel, bien, ça va être sur le matériel sportif que ça va être mis. Mais ça va répondre aux besoins du milieu et non pas à une commande.
Parce qu'une des craintes qui était soulevée, c'était de dire, mettons, OK, bien là, tel directeur va décider de ne plus mettre d'argent dans la culture puis de tout mettre dans le sport. C'est pas de même ça marche. C'est pas une personne qui va décider que, hey, moi, je suis un tripeux de sport, je vais tout mettre l'argent... toutes mes enveloppes away dans le sport, dans l'équipe de hockey de l'école.
Bien, c'est ça. C'est, on ne fait pas le cavalier seul, puis on n'est pas des dictateurs dans les écoles. Ce n'est pas parce que c'est directeur puis que ça rime avec dictateur que c'est la même chose. Là. Réellement, on le travaille en équipe avec les enseignants pour commencer, avec les parents et les enseignants au conseil d'établissement, pour s'assurer que ça répond bien aux besoins du milieu, pas aux besoins de Pierre-Jean-Jacques qui aurait décidé « j'aime le hockey, je mets ça dans le hockey ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est réellement le besoin de l'élève qu'on regarde et auquel on répond le mieux possible. Est-ce qu'il va y avoir des insatisfaits? Assurément. On n'est jamais capable de plaire à tout le monde. Il y aurait une personne qui aurait voulu un petit peu plus de ça, mais on a décidé de le mettre de l'autre côté. C'est sûr. Mais l'important, c'est qu'on réponde aux besoins de l'élève, aux besoins de l'école. Là, ce que ça nous obligeait de faire, c'est que toutes les écoles de toute la province devaient toutes mettre un montant pour des livres, toutes mettre un montant pour du sport, alors qu'il y en a qui sont très bien nantis puis qui auraient dit « ben moi, c'est pas pour le sport, c'est pour les livres ». Ils ne pouvaient pas le faire. Là, ils vont pouvoir le faire. Fait que la crainte qu'on ne mette plus d'argent là, je ne la trouve pas fondée. Et deuxième des choses, le nouveau programme de français vers lequel on s'en va a mis des obligations de lecture de livres québécois. On n'aura pas le choix de renouveler, de s'améliorer. Et en plus, on a des bibliothécaires dans tous les centres de services qui sont là pour conseiller les écoles. On va continuer de travailler avec eux autres. Là. Ils ne seront pas là à dormir là, puis à se reposer. Là. Donc, oui, c'est une crainte, mais moi, je ne la comprends pas.
À quel point ça a facilité votre job, cette décision-là qui a été prise il y a quelques mois de vous laisser plus de lousse un peu au centre de services scolaires puis aux directions?
Ça faisait près de 10 ou 15 ans qu'on demandait ça. Fait que ça l'a beaucoup facilité parce que justement, on est capable de prendre les décisions en lien avec les vrais besoins du milieu et non pas avec une commande qui nous disait « vous devez mettre de l'argent là ». Donc oui, c'est puis ça, là on parle de livres, on parle de sport, mais il y a plusieurs regroupements comme ça et ça facilite le plus, beaucoup plus. Je donne un exemple, on parlait de professionnels. Bien, l'argent pour, admettons, les élèves qui ont une douance, si je n'ai pas d'élèves qui ont une douance dans l'école, si je suis capable de l'attribuer pour dire « bien, je vais la mettre en orthophonie justement », bien, parfait.
Ça allait-tu précisément de même qu'il y avait une enveloppe que c'était pour la douance?
Oui.
Ah ouais, hein?
Oui. Quand je vous dis là, qu'il y avait des enveloppes très, très précises, c'était aussi précis que ça. Donc là, ça nous donne la marge de manœuvre de dire, bien, là, on va jouer dans le service pour l'élève, dans du personnel, au lieu de dire que ça doit être attitré à telle chose très précisément.
Dans le Journal de Québec maintenant, ce matin, on nous parle de l'achat de matériel scolaire qui coûte bien cher. On nous donne un exemple, là, jusqu'à 2 700 $ pour une famille de trois. Est-ce que les directions d'école et les centres de services scolaires réfléchissent à cet enjeu-là de temps en temps? Puis est-ce qu'on essaye de limiter les achats qu'auront à faire les parents?
Si vous saviez à quel point, à chaque année, c'est un casse-tête sur lequel là, on doit réfléchir, c'est épouvantable. Ce que l'article ne dit peut-être pas, là, c'est que le coût qui parle là, c'est en comptant les sports-études, les ci, les ça, qui peuvent monter jusqu'à 1 000 $, 2 000 $, là, qui vient faire monter la facture. Parce que habituellement, je vous dirais que quand on atteint 100 $, je parle de public, là, on ne parle pas du privé, là. 100-150 $, on est pas mal là, dans le maximum. Et oui, on pourrait y avoir des économies, mais on ne peut pas. J'explique ce que je viens de dire parce qu'il y en a jusqu'à pourquoi tu ne peux pas. Il y a quelques années, il y a eu un recours collectif qui empêche de nommer des marques, qui empêche... Okay. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus charger et ça nous empêche aussi de faire des achats regroupés. Parce qu'il y a des profs, je me rappelle où j'étais directeur, il y a des profs qui étaient prêts, eux autres, à dire « Hey, on va les acheter, tous les effets scolaires. Un, on va s'assurer que tout le monde a le bon matériel, a ce qu'on veut. Et en achetant en achat regroupé, ça va coûter moins cher. » On n'a pas le droit. Donc, les parents se retrouvent à l'acheter par eux autres-mêmes, à des fois deux fois, trois fois le prix que nous, on aurait payé. Tout ça, ça tourne autour du recours collectif parce qu'il y a des gens qui ont assurément là, exagéré dans leur demande, mais en même temps, là, on se retrouve avec des parents qui payent cher. Je suis d'accord avec vous, là, je suis dans ça là, actuellement pour les enfants, puis c'est pas donné.
La facture de 2 700 $ dont je parlais, c'est pour deux enfants, puis en effet, quand on ventile les différents coûts, frais du programme sport-études et cahier d'exercice, 1 525 $, on s'entend que là-dedans, c'est pas n'importe qui va avoir à payer ça. Des uniformes, 400 $, c'est pas toutes les écoles qui ont des uniformes non plus.
Très rare.
Souliers, 6 paires à 75 $, on dit 450 $. Je pense pas que t'as besoin nécessairement pour deux enfants de 6 paires de souliers à 75 $. Moi, des fois, j'achète des petites paires de souliers qui font bien la job à 20 $.
Puis en plus, on pourrait dire très simplement... L'élève, là, il peut porter la même paire de souliers dans la classe puis au gymnase. T'sais, fait qu'on a besoin de une à l'école. Je pense pas qu'il y ait bien des écoles qui disent...
Ah, ben ça, en tout cas, moi, ça s'en prenait une pour le gym puis différent pour la classe.
Parce que dans le temps, les semelles marquaient les gymnases. Maintenant, là, il y a à peu près plus de semelles. Ouais. Les caoutchoucs sont améliorés puis ils marquent plus les gymnases. Donc, c'est pas problématique. Fait que je vous dirais que c'est bien rare que maintenant les écoles demandent deux paires de souliers. Une pour l'extérieur, une pour l'intérieur, ça c'est sûr. Mais pour l'extérieur, ils en ont déjà une. Hein? Logiquement, ils doivent se promener avec quelque chose dans les pieds pendant l'été.
André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, toujours un plaisir. Puis d'après moi, on va avoir des excuses pour se reparler dans les prochaines semaines.
Ah, ça devrait.
Merci beaucoup, monsieur Bernier. Au retour, Georges Mercier, analyste politique. Ben des sujets au menu.
Le point de Max. Le point de Max. Boulevard. 102.1 100% parlé tout l'été. Marceau le matin.
Bienvenue,
Claude Portin,
salut.
Salut.
Max Larouche, salut.
Salut.
Comment ça va, les boys?
Bien. Très, très, très bien.
Content de vous voir. Avez-vous eu des belles vacances?
Oui.
Ma découverte de l'été,
ouais.
C'est Carleton-sur-Mer. C'est d'une beauté incommensurable, ce secteur-là. J'ai tombé en amour avec ce secteur-là. Et je me suis dit, si un jour je veux mourir, à 78 ans, mettons,